14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
J'espère que les juges vont enfin ouvrir les yeux. Cédric, pour moi, il est innocent. Il est temps maintenant de les laisser sortir, mais bien sûr, ils ont décidé de faire cette audition apparemment deux fois. La première aujourd'hui et la deuxième en décembre. Donc tout pour le faire craquer, l'épuiser, quoi. C'est bien dommage.
Bonjour, un an de mystère, un an de suspense, un an d'impasse. Pas de corps, pas d'aveu. Arrive-t-on au bout de l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, tant cette histoire se heurte obstinément à l'absence de preuves, au silence et aux dénégations du suspect numéro 1, Cédric Jubilard, le mari de Delphine. Cet homme doit à nouveau être entendu vendredi 3 décembre 2021 par les deux juges d'instruction qui tentent depuis des semaines de le cerner, qui essaient de découvrir les secrets qu'il pourrait cacher. Cédric Jubilard est resté sur ses positions. Il n'a pas tué son épouse, mais il a toutefois commencé à révéler sa vraie personnalité lors des interrogatoires dans une affaire où désormais chaque mot est compté. Ce sont les derniers soubresauts de cette enquête, pas comme les autres, que je vous raconte aujourd'hui en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France. Une enquête qui arrive donc à un tournant capital, mais dont personne ne peut prévoir l'issue.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition de Delphine Jubilard. Mi-décembre 2020, dans une localité du Tarn, son mari Cédric est en détention provisoire. Il va être réentendu par les juges. Son premier interrogatoire avait déjà livré quelques clés de sa personnalité. Ce 15 octobre 2021, Cédric Jubilard s'assoit dans le cabinet des juges d'instruction de Toulouse, Audrey Asma et Coraline Chartier. Le maçon, artisan plaquiste, âgé de 34 ans, est entouré de ses trois avocats. Il apparaît détendu. Il a été extrait pour l'occasion de la maison d'arrêt de Seyss, où il est en détention provisoire depuis le 18 juin, jour où il a été interpellé à Albi, sur un chantier. Je suis à l'isolement et je ne sais même pas pourquoi. On me dit que c'était du fait que l'affaire soit médiatisée. C'est vraiment un calvaire. Je fais rien de mes journées, annonce-t-il d'emblée, selon les termes du procès-verbal révélé par le journal Le Parisien. C'est le premier interrogatoire de Cédric Jubilard. Il est prévu que les questions portent essentiellement sur sa personnalité et ses rapports avec Delphine. « Je suis innocent, je n'ai rien à voir avec la disparition de ma femme, je vous l'ai toujours dit », prévient Cédric Jubilard face à des juges qui ne sillent pas. Les magistrates ont été troublés par les témoignages évoquant la violence de ce mari, père de deux enfants vivant de petits boulots, gros consommateur de cannabis, jusqu'à 400 euros par mois. Delphine aurait-elle été visée par ces menaces, insultes et mises en garde? Quand moi je dis des choses, je ne tourne pas autour du pot. Je n'ai pas un langage soutenu comme certains ou comme vous très haut placés qui ont des termes polis. Moi, j'ai des termes plus désagréables et plus méchants. Cédric Jubilard dément avoir levé la main sur Delphine. Aucun témoignage ne va d'ailleurs dans ce sens. Aurait-il franchi un cap supplémentaire et irrémédiable alors que se profilait l'échéance de la séparation et du divorce? N'aurait-il tout simplement pas supporté que Delphine le quitte pour un autre homme? Une histoire qui durait depuis des mois avant la disparition de la jeune femme et qui, de toute évidence, le blessait au plus haut point. « J'ai pas de CDI, l'argent ne rentre pas au bon moment, j'ai pas de voiture fixe, je ne sais pas parler, je ne fais que crier », dit-il au juge. À propos de l'éloignement de son épouse, « j'essaie de la reconquérir, de redevenir le mari idéal, mais ça ne donne rien. Quand je vois que ça sert à rien, je laisse tomber, je sais que c'est fini ». Cédric Jubilard précise avoir accepté la séparation à la mi-septembre, soit trois mois avant la disparition. Il reconnaît qu'il était à l'époque dégoûté et déçu. C'est la vérité. Au début, j'étais très abattu de tout ce qu'on avait pu construire ensemble et que tout ça vole en éclats, en un claquement de doigts. Ça reste la mère de mes enfants. Elle aura toujours une place dans mon cœur. Les juges Asma et Chartier insistent sur l'exaspération qu'a affiché Cédric Jubilard avant la disparition de son épouse. De toute évidence, il ne supportait pas l'échéance d'une séparation, tentant de connaître les moindres faits et gestes de Delphine et de son amant. Sur ce point, il répond qu'il s'agissait de rassembler des éléments en vue de la procédure du divorce à venir. Devant ses proches, dont sa propre mère Nadine, brièvement placé en garde à vue, n'avait-il pas déclaré qu'il n'en pouvait plus de Delphine? Il était prêt à la tuer et à l'enterrer. Des mots jetés en l'air, répond le mari. Et on s'arrête donc sur cet interrogatoire, le premier de Cédric Jubilard face au juge, car c'est un moment important. Il y aura donc le deuxième interrogatoire demain, dont on l'attend beaucoup dans cette procédure. On a en ligne notre premier invité dans l'heure du crime, c'est Ronan Folgoas. Bonjour Ronan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au journal Le Parisien et nous sommes aujourd'hui en partenariat avec votre journal Le Parisien aujourd'hui en France qui sort aujourd'hui, comme on dit dans le jargon, une double page sur l'affaire Jubilard. Révélation sur la nuit fatale, double page que je conseille évidemment à tous nos auditeurs pour mieux comprendre cette affaire parce que vous y faites plusieurs révélations, vous, Ronan Folgoas et la rédaction du Parisien. On a l'impression qu'il a lutté beaucoup pour éviter ce divorce. Là, je parle du premier interrogatoire. Hein. Il a essayé jusqu'au bout, sans doute, de retenir Delphine.
Oui, oui, c'est ce qu'on comprend. Hein. Il y a cru, il a voulu s'accrocher. C'est quelqu'un de très combatif, Cédric Jubilard, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Il essaie toujours de trouver des solutions. Il ne s'avoue pas battu. Et dans le travail, et dans sa vie sociale, et visiblement dans sa vie sentimentale. Et donc, il a tenté de la reconquérir pendant de longues semaines. Là, on est sur la période qui part du mois d'août 2020 jusqu'au mois d'octobre, peut-être novembre. Et puis, à un moment, il comprend qu'il n'y arrivera pas.
Alors, il y a quelque chose que dans ces procès-verbaux que vous aviez révélé à l'époque, il y a quelque chose de troublant, c'est tout de même ce langage qu'il emploie. On sent qu'il est presque brut de décoffrage, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui a des mots assez violents quand il s'exprime, et il le dit lui-même.
Oui, violent ou direct, hein, selon les points de vue. C'est vrai qu'il a une manière assez particulière, assez décomplexée hein, de s'exprimer. Il n'hésite pas à dénigrer. Par moment aussi, son épouse disparue, ce qui est troublant évidemment, mais ce qui ne constitue pas forcément une preuve de culpabilité.
Évidemment.
Mais c'est vrai qu'il a un langage très cru.
Et oui, pas châtié. Ces mots-là, comme vous le dites très bien, Ronan Folgoas, ces mots-là ne sont pas des preuves. Bonjour, maître Jean-Baptiste Allary.
Bonjour monsieur Richard.
Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. Votre parole est aussi rare qu'elle nous est précieuse. Vous êtes l'avocat, l'un des avocats de Cédric Jubilard. Je le disais là avec Ronan Folgoas. Il s'est ouvert votre client lors de cette première audition. Il a admis qu'il pouvait être violent, en tout cas verbalement, c'est ça ?
Alors, il s'est ouvert, oui et non, enfin, oui, enfin, il n'a rien caché. Après, maintenant, non, il n'y a pas de violence dans ce dossier-là, au sein du couple ou vis-à-vis des enfants. Il y a des gestes qui peuvent être déplacés, des propos qui peuvent être déplacés, mais qui ne relèvent pas de violence à proprement parler. Ensuite, effectivement, il a pu dire, bah, écoutez, oui, j'ai ma manière de parler, et elle est peut-être pas celle d'une personne aiguë. C'était le sens de ce qu'il a dit.
Ce que vous nous dites finalement, maître Allary, c'est qu'il a sans doute une façon de s'exprimer qui est un peu brutale, peut-être un peu triviale, mais ça ne fait pas de lui un meurtrier.
Ah ben absolument pas. Au contraire, il a l'humilité de reconnaître qu'il s'exprime comme il s'exprime. Voilà. Et que peut-être pour des gens qui ont fait des études, qui sont lettrés, ça peut paraître un petit peu, comment dirais-je, aride comme manière de s'exprimer, et il a l'humilité de le reconnaître, tout simplement. Et il dit, je m'exprime pas comme vous, en parlant des juges.
Maître Allary, on a le sentiment que depuis le début de l'enquête, il n'a pas vraiment une très bonne image, votre client, Cédric Jubilard.
Encore une fois, la personnalité ne fait pas le criminel.
Oui, bien sûr.
Donc moi, je veux bien qu'il a la personnalité qui est la sienne, et entre l'image qu'il renvoie et le personnage que moi je rencontre pour vous assurer qu'il y a un monde, mais il renvoie cette image-là. Après, il faut pas non plus faire de lui ce qu'il n'est pas. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui est très sensible, qui a ses forces, ses faiblesses, comme tout le monde. Mais c'est pas non plus un personnage frustre comme on peut vouloir le dépeindre.
Patrick Tégéraud, bonjour.
Bonjour Alphonse, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui. Vous êtes le patron du bureau RTL à Toulouse, correspondant dans cette belle région du sud-ouest et dans cette grande ville. Un mot sur ces propos qu'a tenu Jubilard, il dit « j'ai pas d'argent, j'ai pas de revenus fixes », ça revient un petit peu en boucle. Et ça peut être l'une des motivations pour les juges et peut-être les enquêteurs de dire finalement, il n'était pas à la hauteur, il s'est senti frustré, il s'est rebellé.
Ah, ça, qu'il se soit senti frustré, qu'il se soit senti trompé, oui, ça, c'est absolument une évidence. Pour ce qui est de l'argent, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, Cédric Jubilard, officiellement, gagnerait dans les 1500 euros par mois en tant que plaquiste. Et en plus, il fait un petit peu de travail au noir de temps en temps. Alors, c'est des revenus qui sont relativement confortables dans l'absolu, sauf qu'il a de grosses dépenses. Et en particulier, le principal poste de dépense, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est les 400 euros par mois à peu près pour le cannabis. Alors, c'est vrai que de temps en temps, il l'a reconnu, hein, je parle sous contrôle de Maître Alari, il piochait parfois dans les comptes épargne même des enfants. Mais il a toujours remboursé, ça a été démontré à chaque fois, et même il en rajoutait un tout petit peu. Donc le mobile de l'argent ne tient pas vraiment.
Oui. Alors le mobile de l'argent, il tient pas, vous dites Patrick Tegiraud. Ronan Folgoas, est-ce que ce 15 décembre, c'est-à-dire la veille de la disparition de Delphine, est-ce qu'il y a un déclic, une montée en puissance, il y a cet argent, etc., qui obsède ce couple? Oui.
Alors, il se passe quelque chose dans cette journée du 15 décembre qui rattache à la problématique financière, dans le sens où Delphine Jubilard a un rendez-vous, enfin, elle n'a pas un rendez-vous. En fait, elle se présente à l'agence Crédit Agricole d'Albi, hein, où elle a ses habitudes, et elle demande, eh bien, à changer le code de sa carte bleue, puisqu'elle en a, elle s'en ouvre, hein, à la conseillère qui est bancaire qui la reçoit, et elle explique qu'elle en a plus cassé que son mari subtilise sa carte bleue et l'utilise pour faire des retraits. Et donc voilà, elle cherche à prendre ses distances, ne serait-ce que par ce changement de code de carte bleue. Et peut-être, mais ça c'est une pure hypothèse, et à titre personnel je suis pas du tout convaincu que ça puisse constituer
un déclic,
un mobile suffisant pour passer à l'acte. Hein. Il peut aussi, il se peut qu'au cours de la soirée, Delphine ait fait part de son choix, de cette décision de demander un changement de code de carte bleue. Mais voilà pour la dimension financière autour de ce 15 décembre.
Ouais. Alors donc on sent bien qu'il y a peut-être eu un déclic, une montée en puissance, même si il faut bien le répéter. Cédric Jubilard, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'indice, et Cédric Jubilard, il a toujours démenti toute participation à cette disparition. Comment est-il dans les entretiens passés, Cédric Jubilard? Chaque fois, il ne dit rien, il reste sur ses positions, c'est ça? Ronan Folgoas.
Vous voulez parler au cours?
Oui,
au cours
non,
son
attitude, oui, garde à vue, et puis devant les juges lors de sa première audition, mais garde à vue, je pense qu'il ne dit rien, c'est ça, non?
Ah, il ne dirait, je ne pense pas pouvoir dire ça. Non, non, il dit au contraire beaucoup de choses. Hein. C'est une garde à vue qui a duré quand même 48 heures. Donc il a été interrogé sur des sujets très très divers de ça, ouais. Sur sa vie, son parcours de vie, sa vie de couple, et puis après évidemment sur les faits proprement dits qu'on lui reproche. Non, je pense qu'il a répondu sur beaucoup de points. En revanche, dès qu'il est mis en difficulté, il a contesté.
C'est-à-dire qu'il va contester.
Il a toujours contesté les faits et toujours trouvé parfois une parade plus ou moins crédible, mais il n'a jamais, si vous voulez, il n'a jamais baissé pavillon.
Hein, tout à fait.
Face à ses accusateurs.
Cette journée du 15 décembre 2020 et la nuit qui va suivre feront l'objet d'un autre interrogatoire devant les juges d'instruction, les heures cruciales d'une disparition sur lesquelles Louis, 6 ans et demi, a donné des détails. Après la disparition de Delphine Jubilard et alors que les recherches s'activent autour de la maison du couple, les gendarmes rencontrent le petit Louis, 6 ans et demi, le fils aîné. Sa sœur Elia est encore un bébé, elle n'a que 18 mois. Les enquêteurs espèrent recueillir auprès du garçonnet des détails sur la soirée et la nuit de la disparition. Audition entourée de 1000 précautions, conduite selon la procédure baptisée Mélanie, qui fait intervenir des gendarmes spécialisés opérant dans une salle dédiée qui n'a rien d'un local de garde à vue. Entretien enregistré et filmé, Louis raconte que ça se passe bien entre ses parents, même si quelquefois ils se disputent. Le petit garçon évoque des gros mots. Sur la journée et la soirée du 15 décembre, Louis se souvient que ça s'est bien passé. Papa et maman ne s'étaient pas disputés, ils parlaient bien. Après, on a mangé, on a regardé la finale de Un incroyable talent à la télé, où ils choisissent le vainqueur. Après, je suis allé au lit. Ils n'ont pas crié parce que je les entendais. 20 janvier 2021, Louis est de nouveau entendu par les gendarmes. Le petit garçon semble être davantage en confiance qu'au lendemain de la disparition, quand au matin, il avait ouvert les yeux et s'était aperçu que ni son père ni sa mère n'étaient là. Sa grand-mère lui avait simplement dit que sa maman s'était perdue dans la forêt. Louis indique que le 15 décembre, il est allé se coucher après avoir regardé la télé avec sa mère. Il ne se souvient plus précisément comment elle était habillée. Sans doute un pyjama, peut-être un pull rouge et un pantalon bleu. Des vêtements qui n'ont pas été retrouvés au domicile des Jubilard. Sur une photo que Delphine a adressée vers 23h à son amant, elle pose en combi short blanc. Mais impossible de savoir si ce cliché a été réalisé le soir même de la disparition. Louis précise désormais que papa était avec maman, ils se sont parlé, ils se sont disputés. Ils ont dit qu'ils allaient se séparer. Louis ne les a pas vus, il les a entendus. L'enfant ne fait pas état de bruit particulier ou de cri. Il s'est endormi. Une voisine qui habite à proximité assure, elle, avoir entendu les cris stridents d'une femme. Un témoignage tardif et qui, selon les avocats de Cédric Jubilard, ne cadre pas avec la chronologie de la soirée. Hormis le petit Louis qui se trouvait avec ses parents et sa petite sœur dans la maison de Cagnac, aucun témoin ne va apercevoir cette nuit-là Delphine et Cédric. Personne n'a croisé dans la nuit la voiture du couple dans laquelle le mari est suspecté d'avoir emporté son épouse. Le véhicule a attiré l'attention car il aurait été retrouvé garé dans le mauvais sens, mais son examen ne donne aucun indice. La trace de la jeune femme se perd en fait dans le salon de la maison, évaporé, sans laisser de traces. Et on vous retrouve, Ronan Folgoas, journaliste au Parisien aujourd'hui en France, qui est notre partenaire aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous, Ronan Folgoas, dans votre article, vous révélez, et en tout cas vous confirmez les cris entendus par une voisine ce soir-là. Qu'est-ce qu'elle dit, cette voisine, exactement ?
Écoutez, ces mots sont assez éloquent, hein, c'est-à-dire qu'elle parle de cris d'une femme apeurée. Alors attendez, je suis en train de reprendre ces mots pour oui. être tout à fait
exact,
tout à fait précis. C'était un cri de peur. C'était fort, ça criait, ça s'arrêtait, et la peur était si importante qu'elle n'avait pas le temps de reprendre son souffle. Ce que je sais, c'est que le cri de cette personne m'a fait très très peur. Voilà ce qu'elle dit notamment.
Ce qui est étonnant, c'est Allez-y.
Oui, vraiment. Non, je me permets d'ajouter que ce témoignage n'est pas tardif en réalité. Hein. C'est un témoignage que les enquêteurs ont recueilli peu de temps après la disparition de Delphine au cours de leur enquête de voisinage, puisque cette personne, par définition, habite à proximité du domicile des Jubilard. Hein. Elle est située à 130 mètres à vol d'oiseau. Bon, voilà, donc c'est une personne qui a été entendue très vite et qui a pu même préciser ses propos dans un deuxième temps début janvier avec sa fille, puisque sa fille a également, sa fille qui est une adolescente, hein, a entendu également les mêmes cris, les mêmes bruits que sa mère décrit.
Donc ça, c'est une scène effectivement tout à fait troublante et qui ne peut que interpeller les enquêteurs. Maître Jean-Baptiste Allary, vous défendez Cédric Jubilard. Ces fameux cris entendus par la voisine.
Quand on regarde ce dossier, il est tellement construit. Ce sont tellement des preuves fabriquées. Et il faut à un moment donné se dire les choses en face, que s'ils ont besoin de fabriquer des éléments de preuve, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est simple. Quand on ment sur des horaires, quand on nous dit que des cris ont été entendus à 23h07, alors que nous avons démontré par des pièces que ces cris n'ont pas été entendus à 23h07, mais à 22h52, et que l'on continue à nous affirmer que les cris ont été entendus à 23h07, j'appelle ça un mensonge. Mais ouais. Quand on a besoin de mentir pour démontrer la culpabilité de quelqu'un, c'est bien qu'il y a un problème quelque part, non ?
Alors oui, on peut le voir comme ça. Pas de traces, pas d'indices, en tout cas ça c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus étonnant dans cette affaire. Mais tout de même, vous comprenez maître, qu'il y ait de forts soupçons sur votre client. C'est la dernière personne à avoir vu Delphine.
La justice a parfaitement le droit de se poser cette question-là. Maintenant, je suis extrêmement clair dans ce que je dis, lorsque j'affirme, mais clairement, mais je ne suis pas le seul à le faire, vous inquiétez pas, qu'il n'y a absolument aucun élément de preuve dans ce dossier. Il n'y a rien qui permette de dire il a participé à quoi que ce soit d'ailleurs. Participer à quoi ? Ils sont incapables de nous le démontrer. C'est ça mon rôle en réalité. Il n'est pas d'affirmer une vérité, je ne suis pas Deus ex machina, hein. C'est simplement de vous dire, est-ce qu'il y a dans ce dossier de quoi à accuser un homme ? Est-ce que ceux qui accusent et qui mettent en prison ont les moyens de le faire ? Eh bien, je vous affirme que non, ils n'ont pas les moyens de le faire, et c'est ce qui est terrible dans ce dossier. Il va falloir à un moment donné qu'on accepte tout simplement que ce dossier est vide.
Alors, voilà. dossier vide, maître, effectivement, peut-être, en tout cas pas aux yeux des enquêteurs ni des juges. Patrick Tegero, correspondant RTL à Toulouse, parmi ces éléments qui ajoutent au trouble et au doute, il y a ce témoignage du petit garçon, du petit Louis, qui dit qu'il a entendu cette dispute, et c'est pas la première, dit-il.
Et c'est pas la première. Oui, c'est pour ça que c'est un élément intéressant, mais c'est pas non plus un élément déterminant. Puisqu'il le dit lui-même, le petit garçon, ça s'est produit déjà à de nombreuses reprises. Je les ai entendus se disputer. J'ai entendu parler, évoquer peut-être une séparation. Il a dit ça avec ses mots d'enfant, bien entendu. Mmh. Mais tout ça est très, très fragile, hein. C'est pas encore une preuve de culpabilité.
Non, bien sûr. On est dans une construction, là, hein, Patrick, c'est ça?
Tout à fait. Tout à fait. On est dans une construction et c'est vrai qu'il y a des éléments tout à fait, je dirais, qui vont vers l'accusation et qui sont peut-être un petit peu plus complexes parce que, en effet, ce qui se passe cette journée du 15, c'est assez extraordinaire. Il y a, on l'évoquait tout à l'heure, la démarche de Delphine Jubilard pour aller à la banque, mais elle y va aussi pour camoufler, pour protéger son secret bancaire, parce qu'elle ne veut plus que Cédric puisse aller voir ses dépenses. Elle loue des appartements. Elle va dans des chambres d'hôtel pour voir son amant depuis plusieurs mois, elle loue même des voitures, et c'est surtout ça qu'elle veut cacher.
Et cacher une vie clandestine, finalement, c'est ce que vous nous expliquez, Patrick Tegero. Une enquête qui manque de témoignages et d'indices, les enquêteurs et les juges restent toutefois persuadés que Cédric Jubilard, dernière personne à avoir vu vivante Delphine, est le seul personnage de cette histoire à avoir un mobile, la jalousie. Ce mardi 15 décembre 2020, Delphine Jubilard, infirmière à la clinique Claude Bernard à Albi, ne travaille pas. Quelques jours de congé avant les fêtes de fin d'année. La jeune femme apparaît détendue, presque insouciante, manifestement heureuse d'être sur le point de refaire sa vie avec un autre homme rencontré sur Internet quelques semaines auparavant et qui habite Montauban. Ce jour-là, elle file à Albi pour acheter quelques cadeaux de Noël pour ses enfants. Elle discute au téléphone avec sa famille. Elle évoque le repas de Noël où ils vont tous se retrouver ainsi que la préparation du réveillon du Nouvel An. À des amis, elle a confié qu'elle fêterait Noël avec Cédric et les enfants et puis qu'ensuite ils divorceront. Delphine se rend également ce jour-là à son agence bancaire pour faire changer les codes secrets de sa carte bancaire et ceux de ses accès de banque en ligne. Elle sait que son mari épluche ses relevés à la recherche d'indices, peut-être, sur sa liaison amoureuse. Et puis, elle ne veut surtout plus que celui-ci utilise sa carte. Cette même journée du 15 décembre, Delphine Jubilard échange plusieurs SMS avec l'épouse de son amant de Montauban. Celui-ci a informé son épouse la veille de sa liaison et de son intention de divorcer. À travers ces messages, les deux femmes s'entendent sur un pacte de non-agression. Il faut que tout se passe confortablement pour épargner leurs enfants respectifs. Tout faire pour que les familles n'explosent pas. Tu prendras ma place quand elle sera libre. Pour le moment, ce n'est pas le cas, écrit la femme de l'amant à Delphine. Celle-ci lui répond « Tu garderas toujours une place entre nous ». L'épouse de l'amant va lui demander plus tard de ne pas contacter son mari pendant les fêtes de Noël afin que le climat reste serein. Delphine est alors convaincue qu'une nouvelle existence est en train de se dessiner. Elle achète même du vin pour fêter bientôt ce moment avec son amant. À 22h58, elle lui adresse un dernier SMS, une photo d'elle avec ces mots « Bonne nuit mon amour ». Cédric Jubilard n'aurait-il pas supporté d'avoir ce jour-là sous ses yeux les signes concrets d'une séparation pourtant depuis longtemps annoncée? Alors il y a toute cette montée en puissance lors de cette journée critique du 15, la veille de la disparition de Delphine. Ronan Folgoas, ça fait beaucoup. La banque, le vin acheté, les messages, cette absence que montre Delphine, y compris le soir, elle va se mettre dans son canapé avec son gamin. Est-ce que ça peut avoir fait monter la pression autour de son mari ?
Oui, c'est effectivement possible. C'est possible. Après, je pense que si on devait retenir un événement parmi les autres, c'est effectivement ce contact qui se noue entre les deux femmes, Delphine et la femme de son amant, puisque à cet instant précis où le contact se noue et où un pacte, comme vous l'avez dit, Jean-Alphonse, de non-agression est en train de se sceller entre les deux femmes, eh bien là, Delphine a la certitude que son amant ne va pas lui faire faux bond, si j'ose dire. C'est-à-dire que là, les choses désormais sont écrites, elles sont actées. Mmh. Et il n'y a plus aucun doute de son côté. Elle sait que bien son amant ne va pas hésiter, tergiverser, et que là, les choses sont très claires. Et donc, l'hypothèse que les enquêteurs ont faite, bien sûr, et que l'amant lui-même a faite, hein, c'est que Delphine, peut-être, ce soir-là, eh bien, a avancé ses jalons auprès de Cédric. Elle a exposé la situation. Et que cette situation-là, eh bien, a fortement, fortement déplu à Cédric et qui aurait pu éventuellement provoquer le passage à l'acte. Ouais. En tout cas, c'est l'événement majeur de cette journée du 15 à mes yeux, et c'est ce contact direct entre les deux femmes et cette vie commune, là, cette nouvelle vie commune là, qui se dessine de manière très claire pour Delphine.
Qui se dessine et qui s'annonce. En tout cas, c'est très important ce que vous dites, parce que vous soulignez effectivement ce point qui, selon vous, est capital. Et on veut bien le croire, effectivement. Patrick Tégéro, correspondant RTL à Toulouse, la piste de l'amant, je suppose qu'elle a été étudiée. Elle a rien donné, cette piste.
Oui, l'amant qui est... Alors, c'est un petit peu un bourreau des cœurs, quand même, cet amant-là, hein, pour être allé un peu sur ses traces. Là où il travaille à Montauban, dans une grande surface de bricolage, tout le personnel féminin est amoureux de ce garçon, ou presque.
Il y a des gens qui ont de la chance, que voulez-vous.
Oui, voilà. Et donc, oui, en effet, ce garçon a fait l'objet, bien sûr, de toute la sollicitude de la gendarmerie. Il a été entendu 3 fois par les gendarmes. On a perquisitionné chez lui. Sa compagne également a été entendue 1 fois. Il faut rappeler aussi que cette personne avait dit à Delphine, en gros, voilà, écoute, je vais partir. Tu prendras ma place quand je partirai. Elle avait déjà prévu de partir, de rentrer dans sa région d'origine, hein, dans les dom-toms, dans les mois qui allaient suivre. Donc tout ça a été un petit peu inscrit. En effet, ça l'a conforté dans cette idée de refaire sa vie avec cet homme-là.
Là, effectivement, la perspective se dessine très clairement.
Complètement.
Maître Jean-Baptiste Allary, avocat de Cédric Jubilard, à la veille de cette audition capitale de votre client, demain devant les juges, selon vous, on n'a pas assez cherché d'autres pistes dans cette affaire ?
Alors, on l'a déjà plaidé devant la chambre de l'instruction. Je ne peux pas me porter accusateur de qui que ce soit. Mais a-t-on suffisamment cherché toutes les autres possibilités ? A-t-on suffisamment fait d'actes, pas des actes de façade, hein, des actes d'enquête sérieux, pour écarter d'autres pistes, celle du rôdeur, celle de l'accident, celle de la disparition volontaire ? Non, ils n'ont pas cherché. Ils ne l'ont pas fait. Alors maintenant, moi, je ne peux pas, encore une fois, venu de nulle part, vous dire c'est telle piste qu'il faut chercher. Je n'ai pas plus de conviction que les autres.
Cédric Jubilard, hors de lui à l'idée de voir Delphine quitter la maison familiale. Une hypothèse formulée par les enquêteurs, une construction intellectuelle selon les avocats de l'artisan plaquiste. Ils insistent sur l'absence d'indices. Cédric Jubilard, questionné par les gendarmes puis par les juges, a toujours affirmé que le mardi 15 décembre 2020 au soir, il s'était couché autour de 22h30, 23h. Selon le journal Le Parisien, le mari de Delphine n'aurait pas tout dit. Il aurait ainsi omis de raconter une promenade en solitaire sans ses chiens vers 21h30, 22h. Une voisine affirme l'avoir croisé à ce moment-là. Elle le décrit comme un homme qui marchait la tête baissée, un oubli qui, s'il est établi, n'a rien d'accablant pour Cédric Jubilard, mais ajoute au trouble, d'autant plus que d'autres éléments alimentent le dossier d'instruction. Cédric Jubilard affirme avoir désactivé son portable à 22h08 car celui-ci n'avait plus de batterie. Il fallait le mettre en charge. Les experts de la gendarmerie qui ont examiné et disséqué l'appareil affirment qu'au moment où le téléphone a été coupé, la charge était encore de 40%. S'agit-il d'un mensonge ou d'un malentendu ? Autre point qui prête à interrogation selon les enquêteurs, le fait que Cédric Jubilard ait affirmé que Delphine avait pour habitude d'aller promener les chiens à une heure tardive autour de la maison de la rue Yves Montand. Lors de ses premières auditions, il avait dit avoir pensé à son réveil vers 4h du matin que sa femme était sortie avec les chiens. Les témoignages de voisins et de proches n'ont jamais confirmé les longues promenades nocturnes de Delphine Jubilard. Tout au contraire, il sera répété que la jeune femme avait peur de se promener seule dans la nuit.
Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, c'est vous qui révélez ce matin dans votre journal cette histoire de portable. Alors, j'ai rapidement expliqué, mais il faut que vous nous l'expliquiez un peu plus précisément parce que ça intéresse beaucoup les enquêteurs.
Oui, oui, c'est-à-dire que il pense avoir mis en évidence par le biais de cet élément un mensonge de la part de Cédric Jubilard, un mensonge qui ne serait pas tout à fait innocent, enfin qui ne serait pas tout à fait le fruit du hasard. Cédric Jubilard, pour faire très court, il prétend qu'il jouait à son jeu favori Game of Thrones sur son téléphone et que, oubliant le niveau de charge, il s'est laissé avoir et la batterie est tombée à plat et le jeu s'est interrompu comme ça brutalement au moment où son téléphone s'éteint. Et en fait, la technique dit autre chose. La technique dit qu'il a joué effectivement à ce jeu Game of Thrones, mais jusqu'à 22h04. Et son téléphone, lui, s'éteint à 22h08. Et par un calcul de charge que vous avez évoqué, hein, Jean-Alphonse, eh bien, ils ont déterminé que ce n'était pas possible que l'appareil soit tombé à plat à 22h08. Sans rentrer dans tous les détails, hein, il a un niveau de charge à 4h12 du matin qui est incompatible. D'accord. Il ne peut pas être qui est à 33%.
C'est ça. Donc c'est un calcul.
Ouais, il a un niveau de charge un niveau de charge de 33%, pour faire très court, hein, niveau de charge de 33% à 4h12 du matin. Et ce niveau n'est pas compatible avec une charge qui aurait eu lieu dans la nuit, parce qu'il prétend, hein, Cédric Jubilard, avoir chargé son téléphone au cours de la nuit, de manière assez naturelle. Et ça ne colle pas, parce que s'il est à 0% à 22h08, il ne peut pas être à 33% à 4h12 du matin. À partir de là, ça veut dire que, eh bien, on est à partir de cet élément technique. Ils en déduisent un scénario. Le scénario, c'est que Cédric Jubilard a son téléphone à 22h08 entre ses mains. Il est à 40% de charge. Et pour une raison qui lui appartient, il choisit soit de l'éteindre, soit de le mettre en mode avion. Et là, il est très difficile de faire la distinction entre les deux. Mais en tout cas, il fait une démarche. Il l'aurait fait une démarche volontaire à 22h08. Et pourquoi il l'a fait, cette démarche? Là, c'est toute la question. Parce que s'il cherche à passer sous les radars, c'est-à-dire à ne pas être géolocalisable, pas traçable, c'est lourd de sens.
Bien sûr. Il y a une espèce de zone blanche, effectivement, qui déjà intriguait les enquêteurs, mais qui là se confirme et les intrigue encore plus. Juste un mot, Patrick Tegero. Ça veut bien dire qu'il y a vraiment des expertises qui ont été faites, mais dans le détail le plus absolu. Là, les gendarmes, ils ont tout fouillé.
Oui, ils ont tout fouillé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de neuf depuis le mois de juin, en fait. Hein. Hormis, bien sûr, l'audition du petit Louis, l'enquête n'a pas véritablement progressé. Il y a l'audition de Louis, il y a les analyses qui ont été faites sur le contenu du siphon de la machine à laver, où aurait été lavée la fameuse couette dans la nuit de la disparition de Delphine. L'analyse de la couette, on l'attend toujours. Ça fait plusieurs mois de retard déjà sur ce qui était prévu. Certains se demandent même si elle n'a pas disparu, cette pièce qui était quand même présentée comme capitale par le procureur de la République il y a quelques mois.
Bien sûr.
Il y a aussi le sens de capot de la voiture. Oui. On a entendu des témoins à ce propos. La voiture était normalement garée avec le capot vers le haut et il s'avère qu'elle était garée vers le bas.
On a beaucoup glosé sur tous ces détails, mais qui, encore une fois, aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, ne constituent pas des preuves. Et je voudrais juste un mot de maître Jean-Baptiste Allary, avocat de Cédric Jubilard. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent contre votre client.
On le sait, on lui reprochera tout. Il téléphone aux gendarmes 25 minutes après, c'est trop tôt. S'il avait téléphoné demi-heure ou trois quarts d'heure après, c'était trop tard. Il rencontre quelqu'un, c'est pas normal. Il rencontre personne, c'est suspect. Il participe aux recherches, c'est suspect. Il ne participe pas aux recherches, c'est suspect aussi. Tout est examiné à charge pour désinguer ce pauvre mec. Mais c'est la triste réalité.
Des imprécisions, des mensonges peut-être qui assombrissent le portrait de Cédric Jubilard. Celui-ci va répéter qu'il n'est pour rien dans la disparition de son épouse. Les juges vont à nouveau l'auditionner. Cédric Jubilard, incarcéré à la prison de Seyss, près de Toulouse, a arrêté sa consommation intense de cannabis. Il est toujours à l'isolement, un enfermement qu'il supporte de plus en plus mal, selon ses avocats. Le mari de Delphine serait nerveusement à bout de nerfs après 6 mois de détention provisoire et 3 demande de libération refusée. Vendredi 3 décembre, demain donc, il va être réentendu par les juges toulousaines Audrey Asma et Coraline Chartier, deux magistrates qui disposent d'un dossier conséquent. L'interrogatoire doit porter précisément sur la soirée et la nuit de la disparition, celle du 15 au 16 décembre 2021. Hormis la piste Cédric Jubilard, les enquêteurs n'en ont trouvé à ce jour aucune autre qui pourrait éclairer la disparition de Delphine. Le mari demeure, malgré ses dénégations et le tir de barrage de ses trois avocats, le suspect numéro 1, sans qu'aucune preuve ne le désigne formellement. Maître Jean-Baptiste Allary, vous faites partie des trois avocats de Cédric Jubilard. Je l'ai dit, il est nerveusement à bout de nerfs d'après les nouvelles qu'on peut avoir de son état. Cédric Jubilard, justement, dans quel état est-il à la veille de cette confrontation capitale avec les juges?
Il craque le mec, on va se mettre d'accord. Il est en train de disjoncter, mais c'est normal, 6 mois à l'isolement, il faut imaginer le truc. C'est extrêmement difficile. Psychologiquement, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il ne voit personne, il ne parle à personne. Il sort de sa cellule qui fait précisément 9 mètres carrés. 9 mètres carrés. Il sort 2 heures par jour. Le reste du temps, il est enfermé dans 9 mètres carrés et il ne parle à personne. Je vous laisse juste imaginer si vous l'accepteriez pour votre pire ennemi. J'en suis pas certain. Et c'est pour autant ce que la justice lui impose aujourd'hui.
Elle est décisive, Maître Allary, cette audition demain par les juges?
À partir du moment où il est mis en examen, il est absolument décisif de l'interroger. Après, est-ce que ça va changer le fond de la procédure? Ça, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il est proprement ahurissant dans un dossier pareil qu'on attende presque 6 mois pour l'interroger sur ce pourquoi il est poursuivi.
Roland Folgoas, journaliste au Parisien, et vous avez fait un grand dossier ce matin, révélation sur la nuit fatale, dans votre journal, où vous expliquez l'accumulation de, non pas d'indices, mais enfin de faits qui peuvent prêter à confusion, et en tout cas qui chargent le dossier Cédric Jubilard. Est-ce qu'il peut craquer Cédric Jubilard? Question.
Alors, il n'a pas du tout le profil pour craquer, mais tout peut arriver à chaque instant. Il peut aussi psychologiquement avoir cheminé dans sa tête et se dire qu'il est dans une forme d'impasse. Et puis il peut au contraire bien camper sur ses dénégations. Mmh. D'après ce que l'on comprend, d'après la manière dont il se défend, d'après la manière dont il s'exprime, hein, comme on l'avait révélé il y a quelques semaines face au juge, bon, on comprend qu'il est dans un schéma très... très combatif. Il est sûr de son fait, il est sûr de lui, il a beaucoup d'aplomb. Hein, donc on a du mal à l'imaginer comme ça, craquer, se liquéfier face au juge vendredi. Après, si je puis me permettre, Jean-Alphonse,
bien sûr.
Quand on dit qu'il n'y a pas d'indices, et que les enquêteurs ont fabriqué des preuves, comme l'a dit tout à l'heure Maître Allary.
C'est l'avocat, il est dans son rôle.
Voilà, non mais c'est ça, il est dans son rôle, mais disons que c'est un petit peu, disons, travestir aussi une certaine réalité, parce que là, il y a quand même un indice très très marquant dans ce dossier, c'est ce témoignage des voisines. J'y reviens parce que quand la défense dit que ils entendent les bruits de femmes apeurées, une femme qui perd son souffle, accompagnée par des aboiements de chiens, précisément deux chiens, parce qu'il y en a un qui aboie plus fort que l'autre. Il y a beaucoup d'éléments qui se rapprochent du schéma familial et du schéma des Jubilards.
Ça peut peser effectivement beaucoup, très lourd dans le dossier, même si encore une fois on n'a pas retrouvé du tout le corps de Delphine Jubilard, et que faire disparaître un corps, c'est pas toujours non plus quelque chose de facile. On ne fait pas évaporer comme ça un corps en quelques minutes, voire en une heure. Patrick Tegero, ces recherches, elles continuent toujours d'ailleurs dans votre région?
Ah oui, les recherches continuent. Il y a peu de temps encore, il y avait des spécialistes des recherches en milieu périlleux qui sont allés fouiller encore quelques vestiges du bassin minier alentour. Mais en vain. Je voudrais estomper un petit peu le portrait qui a été fait de Cédric Jubilard pour l'avoir aperçu il n'y a pas très longtemps, lors de sa demande de mise en liberté, où il a chuchoté son innocence. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'aplomb, c'est quelqu'un qui est complètement ramassé sur lui-même, qui ose à peine prendre la parole, qui ose à peine dire bonjour et qui est un peu un fantoche.
C'est ça, quelqu'un qui finalement n'apporte pas une parole très claire. Merci beaucoup Patrick Tégéreau, Ronan Folgoas du journal Le Parisien aujourd'hui en France. On était en partenariat avec vous aujourd'hui, puis maître Jean-Baptiste Allary qui nous a fait l'honneur d'être au téléphone de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.